Chapitre 25. Le rôle du lion est-il écrit ? En ce cas, donnez-le-moi, car j'ai la mémoire courte. Vous pouvez l'improviser, il ne s'agit que de hurler. Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Cette scène offrait un singulier mélange de solennel et de ridicule. L'énorme bête continuait à dodeliner de la tête, mais ses efforts plaisants pour imiter la mélodie de la gamme s'arrêtèrent dès que ce dernier eut abandonné la partie. Les mots que David avait adressés à Duncan étaient en anglais. Ils lui parurent avoir un sens caché. Et pour le moment, il n'aperçut rien autour de lui qui pût l'aider à découvrir la personne dont il devait être question. Le vieux chef mit fin aux conjectures d'Hayward en s'avançant vers le lit de la malade. Plusieurs femmes s'étaient réunies là, curieuses de voir l'étranger déployer sa science. Le Huron leur fit signe de s'éloigner. Elles obéirent, bien qu'à regret, et bientôt l'écho lugubre de la galerie souterraine cessa de faire entendre le bruit de leurs pas. Alors, montrant au major sa fille étendue sans mouvement, « Maintenant, dit-il, que mon frère témoigne de sa puissance !» Sommé d'une façon si peu équivoque d'exercer les fonctions de son prétendu ministère, Hayward craignit que le moindre délai ne tournât contre lui. S'efforçant donc de recueillir ses idées, il se mit en devoir de commencer l'espèce d'incantation et les cérémonies bizarres qui servent aux exorciseurs indiens à masquer leur ignorance. Il est plus que probable que, dans le désordre de son esprit, il fût tombé bientôt dans quelque erreur suspecte ou même fatale, sans l'intervention de l'ours qui lui coupa la parole par d'effroyables grognements. Trois fois il essaya de continuer, trois fois il rencontra la même opposition inexplicable, et à chaque reprise l'interruption avait un caractère plus menaçant. « Les savants sont jaloux, dit le Huron. Je m'en vais. Frère, cette femme est l'épouse d'un de nos plus braves guerriers. Faites votre devoir auprès d'elle. Paix, ajouta-t-il en faisant signe à l'animal mécontent. Je pars. » Le chef se retira, en effet, et Duncan resta seul dans cet antre avec une femme moribonde et une bête féroce. L'ours prêta l'oreille aux pas de l'Indien avec l'air de sagacité particulière à ces animaux. Lorsqu'il n'entendit plus rien, il se retourna et, tout en se dandinant, vint au jeune officier et se campa devant lui, debout et dans l'attitude que prendrait un homme. Hayward chercha d'un œil inquiet s'il ne trouverait pas quelque arme avec laquelle il pût résister dignement à l'attaque qu'il commençait à redouter. On eût dit que l'humeur de l'animal avait soudainement changé. Il ne grondait plus, il ne donnait pas de nouveaux signes de colère, et tout son corps velu semblait en proie à quelques convulsions intérieures. Il porta ses lourdes pattes de devant à son mufle hideux, et pendant qu'Hayward le regardait faire en se tenant sur ses gardes, la tête de l'ours tomba de côté et fit place à celle de l'honnête chasseur qui riait à bouche « Que veux-tu ?» selon sa manière silencieuse. Une exclamation bien naturelle allait échapper à notre officier. « Chut !» dit tout bas et de faucon. « Les coquins ne sont pas loin, et tout bruit qui n'aurait pas un air de sorcellerie nous les amènerait ici en masse. »« À quoi bon cette mascarade ?» répondit le major. « Vous avez risqué gros. »« Ah, le hasard fait souvent plus que la raison et le calcul. » Mais comme une histoire doit toujours commencer par le commencement, je vais vous raconter la mienne par ordre. Après notre séparation, j'installai le commandant et le sagamore dans une vieille loge à castor, où ils sont plus à l'abri des hurons qu'ils ne le seraient parmi la garnison du fort Édouard, car les Indiens du Nord-Ouest, n'ayant pas encore fréquenté beaucoup les trafiquants, continuent à vénérer le castor. Après quoi, on casse et moi, nous sommes partis pour l'autre cantonnement, comme c'était convenu. Et à propos, avez-vous vu le garçon ? À mon grand chagrin, il est prisonnier et doit être mis à mort au lever du soleil. Quelque chose me disait qu'il en viendrait là. Le chasseur dit cela d'un ton moins confiant et moins gai, mais reprenant son accent naturellement ferme, il continua. Sa malchance est le véritable motif qui m'amène ici. Comment se résoudre à abandonner au Huron un gars qui n'a pas son pareil ? Ah, les sacripants riraient tous leurs sous s'ils pouvaient attacher au même poteau le cerf agile et la longue carabine, comme ils m'appellent. Et je ne sais trop pourquoi ils m'ont donné un tel sobriquet, car il n'y a pas plus de ressemblance entre les qualités de mon père Sedin et celles de vos carabines du Canada qu'entre la terre de pipe et la pierre à fusil. Continuez votre récit, dit l'impatient Hayward. Les Hurons peuvent venir d'un instant à l'autre. Soyez sans crainte. Ils savent qu'il faut à un sorcier le temps de se retourner comme à un prêtre ambulant des colonies. Nous sommes aussi à l'abri d'une interruption qu'un missionnaire qui entame un sermon de 2 heures. Eh bien donc, Uncas et moi, nous avons rencontré une bande de ces drôles. Le gars s'est beaucoup trop aventuré pour un éclaireur. Il est vrai qu'ayant le sang chaud, on ne saurait lui en vouloir. Et après tout, c'est la faute d'un Huron, un vrai lâche, qui en fuyant l'a fait tomber dans une embuscade. Le malheureux a payé cher sa poltronnerie. Le chasseur passa la main sur son cou d'une manière significative et fit un signe de tête qui voulait dire « je comprends ». Après quoi, il continua dans un langage qui ne pouvait être plus éloquent que ses gestes. « Quand je vis Uncas prisonnier, les Hurons eurent affaire à moi, je n'ai pas besoin de vous le dire, et 2 de leurs enfants perdus ne s'en sont pas bien trouvés. » Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Après avoir envoyé une balle dans la tête à chacun de mes coquins, je me suis approché du camp sans autre encombre. Alors le hasard m'a conduit justement dans un endroit où l'un des plus fameux jongleurs de la tribu passait son grand uniforme pour aller sans doute livrer à Satan quelques batailles signalées. Et au fait, pourquoi appeler hasard ce qui m'a tout l'air d'être un ordre spécial de la Providence ? Un coup de crosse appliqué à propos sur la tête de l'imposteur l'a abasourdi pour quelques heures. Je lui ai fourré pour son souper un bâillon dans la bouche afin d'éviter le bruit, et l'ayant ficelé entre 2 pains, je lui ai emprunté sa défroque et me suis chargé du rôle de l'ours pour que les opérations du sorcier ne fussent point interrompues. Et vous avez joué le rôle à merveille, et de manière à faire honte à l'animal en personne. Mon Dieu, major! Reprit le chasseur flatté du compliment. « Je serais un triste écolier après avoir étudié si longtemps à l'école du désert si je ne savais pas imiter les mouvements et la nature de l'ours. Si c'eût été une panthère de grande taille, je vous aurais offert un spectacle digne de vous. Mais contrefaire une bête stupide, il n'y a rien là de bien merveilleux. Et néanmoins, il faut se garder d'y mettre de l'exagération. Oui, oui, il est plus facile d'outrer la nature que de l'égaler. » Et c'est ce que bien des gens ignorent. Ah, ça, nous avons encore de la besogne sur les bras. Où est la jeune dame? Dieu le sait, j'ai examiné toutes les huttes du village sans y découvrir la moindre trace de sa présence. Vous avez entendu ce qu'a dit le chanteur en vous quittant. Elle vous attend, elle est ici. J'en suis venu à croire qu'il voulait parler de cette malheureuse femme. L'imbécile crevait de peur et il s'est mal expliqué. Mais ses paroles avaient un autre sens. Voilà des murs de séparation qui suffiraient à loger une colonie tout entière. Un ours doit savoir grimper. Je vais donc jeter un coup d'œil par-dessus. Il y a peut-être des ruches à miel dans ces rochers, et comme vous savez, je suis une créature assez friande de douceur. Œil de Faucon rit de cette idée, et se mit à grimper, en imitant les mouvements gauches et lourds de l'animal qu'il figurait. Lorsqu'il eut atteint le sommet, il fit un geste de silence et redescendit au plus vite. « Elle est là !» dit-il à voix basse. « Entrez par cette porte et vous la trouverez. J'aurais bien dit un mot de consolation à la pauvre petite, mais la vue d'un tel monstre eût pu lui ôter la raison, quoique, à vrai dire, major, vous ne soyez pas des plus séduisants avec votre peinture. » Duncan, qui déjà s'élançait avec empressement, recula en entendant cette remarque décourageante. « Et quoi ?» fit-il d'un air chagrin. « Suis-je donc si horrible à voir ?»« Oh, pas assez pour faire peur à un loup pour arrêter une charge du royal américain. Cependant, j'ai vu un temps où vous aviez meilleure mine, major. Les figures peinturlurées peuvent être du goût des indiennes, mais les jeunes femmes blanches préfèrent leur propre couleur. Tenez, » ajouta le chasseur, en lui montrant un endroit où l'eau ruisselant du rocher formait une petite source qui s'échappait par les crevasses adjacentes. Voilà de quoi vous débarrasser en un tour de main des barbouillages du sagamore, et quand vous serez de retour, je vous embellirai de nouveaux charmes. Un sorcier change aussi souvent la couleur de son visage qu'un cerf des colonies change de corne. Le chasseur n'avait pas besoin de grands arguments pour persuader notre amoureux. Il parlait encore que déjà Duncan mettait l'eau à profit pour effacer jusqu'aux dernières lignes de son masque hideux, et il reparut avec les traits beaux et élégants dont la nature l'avait doué. Ainsi préparé pour son entrevue avec sa maîtresse, il prit congé à la hâte de son compagnon et sortit par la porte indiquée. Œil de Faucon le vit partir avec plaisir et accompagna d'une inclinaison de tête les vœux qu'il adressa à voix basse pour sa réussite. Puis il se mit tranquillement à examiner l'état du garde-manger des Hurons, car c'était aussi dans la caverne qu'ils déposaient les produits de leur chasse. Duncan n'avait pour se guider dans le dédale où il se trouvait qu'une lueur faible et lointaine. C'était pour son amour l'étoile du berger. Par son secours, il put entrer dans le port de ses espérances, c'est-à-dire dans un autre compartiment de la caverne, exclusivement approprié à la garde d'une prisonnière aussi importante que la fille du commandant de William Henry. La chambre était remplie des objets provenant du pillage de la forteresse. Au milieu de ce désordre, il trouva Alice pâle, inquiète, apeurée, mais toujours charmante. David l'avait informée de l'arrivée du major chez les Hurons. « Duncan !»« Alice !» Ce fut un échange spontané d'exclamations, tandis qu'effrayée des sons de sa propre voix, elle murmurait encore le nom de celui qu'elle aimait. Il franchissait vivement tout ce qui s'opposait à son passage pour s'élancer à son côté. « Je savais que vous ne m'abandonneriez jamais, Duncan !» lui dit-elle, et son visage abattu brilla d'un rayon de joie passagère. « Mais je ne vois personne avec vous, et quelque agréable que me soit votre présence, j'aimerais à croire que vous n'êtes pas tout à fait seule. » Voyant qu'elle tremblait de manière à lui faire craindre qu'elle ne pût se soutenir sur ses jambes, Duncan la pria de s'asseoir, et lui raconta les événements que nos lecteurs connaissent déjà. Alice l'écoutait avec un intérêt qui lui permettait à peine de respirer, et bien qu'il n'eût guère appuyé sur le désespoir du colonel, les larmes coulèrent abondamment le long de ses joues. Son émotion se calma peu à peu, et, cédant à la tendre sollicitude de Duncan, elle prêta à la fin de son récit une oreille attentive. « Et maintenant, Alice, ajouta-t-il, votre délivrance dépend de vous en grande partie, vous le voyez. Avec le secours d'œil de Faucon, notre inappréciable ami, nous pouvons réussir à échapper à ces barbares. Mais il vous faut vous armer de courage. Songez que votre père vous attend et que son bonheur et le vôtre dépendent de vos efforts. « Ah ! Que ne ferais-je pas pour un père qui m'a tout sacrifié ? Et pour moi aussi, n'est-ce pas ? » dit le jeune homme en pressant la main qu'il tenait dans les siennes. Le regard de naïve surprise qu'elle jeta sur Duncan lui apprit qu'il devait s'expliquer plus clairement. « Ce n'est ni le moment ni le lieu, chère Alice, de vous entretenir de rêves égoïstes, » reprit-il. « Et pourtant, quel cœur oppressé comme le mien ne chercherait pas à s'épancher. Le malheur est, dit-on, le plus fort de tous les liens. Ce que nous avons souffert tous deux à cause de vous a rendu les explications bien faciles entre votre père et moi. »
« Et Cora, bien sûr, on n'a pas oublié ma sœur bien-aimée. »«
Oubliée, non, sans doute. Elle a été l'objet de nos regrets, de nos pleurs, comme peu de femmes l'ont été. Votre père ne fait aucune différence entre ses enfants, mais moi, vous ne vous offenserez pas, Alice, si je vous dis qu'à mes yeux, son mérite a été en quelque sorte effacé. »«
Parce que vous ne lui rendiez pas justice, » s'écria Alice en retirant sa main. « Elle ne parle jamais de vous que comme de l'ami le plus cher. »
« Oui, certes, je veux être son amie, je désire même lui appartenir de plus près. Quant à vous, Alice, votre père m'a permis d'espérer qu'un nœud plus cher encore et plus sacré m'unira un jour à vous. » Saisie d'une émotion bien naturelle à son âge et à son sexe, Alice eut un tremblement nerveux et détourna la tête. Redevenue presque aussitôt maîtresse d'elle-même, elle jeta sur son amant un regard touchant d'innocence et de candeur.
« Duncan, dit-elle, avant d'aller plus loin, attendez la présence de mon père et son approbation. »
Le jeune homme allait répondre quand il se sentit frapper doucement sur l'épaule. Il se retourna en tressaillant pour voir qui venait les interrompre,
et reconnut Magua. Il y avait dans le sourd ricanement de l'Indien, dans ses yeux étincelants, une expression de méchanceté démoniaque. S'il eût obéi à son premier mouvement, Hayward se serait précipité sur le sauvage et eût hasardé toutes ses chances de salut dans l'issue d'une lutte à mort. Mais il était sans armes. Il ignorait si son perfide ennemi n'avait pas quelques compagnons à sa portée, et il ne devait pas laisser son défenseur celle qui lui devenait alors plus chère que jamais. Ce projet, inspiration du désespoir, fut donc abandonné aussitôt que formé. « Que venez-vous faire ici ?» demanda Alice. Les bras croisés sur sa poitrine, elle cherchait à dissimuler l'angoisse de la crainte qui la faisait trembler pour Hayward, sous l'air de froideur hautaine avec lequel elle avait reçu jusque-là les visites du traître. L'Indien triomphant avait repris son maintien sévère, bien qu'il reculât prudemment devant le regard fier et menaçant du jeune homme. Il les couvrit l'un et l'autre d'un rapide coup d'œil, puis il ramassa une grosse pièce de bois qu'il mit en travers de l'issue secrète par laquelle il était entré. Duncan comprit alors de quelle manière il avait été surpris, et se croyant perdu sans ressources, il serra Alice contre son cœur et se prépara à subir une mort qu'il lui était doux de partager avec elle. Magua, du reste, ne se proposait aucun acte de violence immédiate. Ses premières mesures avaient évidemment pour but de s'assurer de la personne de son nouveau captif, en lui coupant tout moyen de retraite. Le major, tout en soutenant sa compagne prête à tomber en défaillance, ne perdait pas de vue les mouvements de l'Indien, car il était trop fier pour invoquer, sans espoir de l'obtenir, la pitié d'un ennemi deux fois trompé dans sa rage. Quand Magua eut terminé ses préparatifs, il s'approcha des prisonniers et leur dit en anglais « Les visages pâles savent attraper l'adroit castor, mais les peaux rouges savent comment on prend les Anglais. Huron, fais ce qu'il te plaira !» s'écria l'officier, oubliant en ce moment qu'il avait double motif de tenir à la vie. « Je te méprise, toi et ta vengeance !»« L'homme blanc, » répondit Magua sur un ton d'ironie, « parlera-t-il de même quand il sera attaché au poteau ? Ici, face à face avec toi, ou en présence de toute la nation ? Le renard subtil est un grand chef. Il ira chercher ces jeunes hommes pour qu'ils voient avec quel courage un visage pâle se rit des tortures. » À ces mots, il se tourna vers la porte par laquelle Duncan était arrivé. Un grognement sourd et menaçant frappa son oreille et lui fit suspendre sa marche. L'ours parut à la porte en se balançant à sa manière accoutumée. Magua, comme avait fait le père de la femme malade, l'examina avec attention, comme pour s'assurer si c'était un homme ou un animal. Il s'était affranchi des superstitions grossières de sa tribu, et dès qu'il eut reconnu le déguisement du sorcier, il se prépara à passer sans façon. Mais un grognement plus fort l'obligea à s'arrêter de nouveau. Alors, résolu à ne point se prêter à une semblable parade, il s'avança hardiment. L'animal, se dressant sur ses pattes de derrière, se mit à battre l'air de celle de devant.
« Imbécile ! »
s'écria le chef en langue huronne.
« Va jouer avec les enfants et les femmes, et laisse les hommes à leur sagesse !»
Il fit encore un pas en avant, sans croire même avoir besoin de recourir à son coutelas ou à la hache qui pendait à sa ceinture. Tout à coup, Œil de Faucon étendit les bras, ou plutôt les pattes, les lui jeta autour du corps et les traînit avec toute la vigueur d'un ours véritable. Hayward, qui avait l'œil sur tous les mouvements de l'ours supposé, quitta aussitôt Alice et, dès qu'il vit son ennemi étroitement serré entre les bras du chasseur, il saisit une courroie en peau de daim et le fit cela comme un paquet. Bras, jambes et pieds, tout fut entouré de nœuds redoublés en moins de temps qu'il n'en a fallu pour le dire. Quand le formidable Huron fut complètement garrotté, le chasseur le laissa aller et Duncan le coucha tout de son long par terre. Durant le cours de cette attaque subite et extraordinaire, Magua s'était débattu violemment et sans pousser un cri, jusqu'à ce qu'il eût reconnu qu'il avait affaire à trop forte partie. Mais lorsqu'Œil de Faucon, par manière d'explication sommaire de sa conduite, écarta le museau velu de l'animal et montra au Huron sa figure mâle et énergique, la philosophie de ce dernier fut vaincue et il ne put retenir l'inévitable exclamation « Ouf !»
Ah ah, tu as retrouvé ta langue,
dit son imperturbable vainqueur.
Eh bien, afin que tu ne t'en serves pas contre nous, je vais prendre la liberté de t'ôter l'usage de la voix.
Comme il n'y avait pas de temps à perdre, il s'occupa immédiatement de prendre une précaution si indispensable. L'Indien, une fois bâillonné, c'était son ennemi tout à fait hors de combat.
« Par quel endroit le coquin est-il venu ? »
demanda ensuite le prudent chasseur.
« Il n'est point passé une âme de mon côté depuis que vous m'avez quitté. »
Duncan montra la porte par laquelle Magua était entrée. Elle était encombrée maintenant de tant d'obstacles qu'il ne fallait pas songer à se retirer par là.
« Amenez la jeune dame, »
reprit Œil de Faucon.
« Nous sortirons par l'autre issue pour gagner le bois. »
« C'est impossible, » répondit le major.
« La terreur lui a ôté l'usage de ses sens. Elle ne peut se soutenir. Alice, ma chère Alice, ma bien-aimée, levez-vous. Voici le moment de fuir.
Tout est inutile. Elle entend, mais elle est incapable de nous suivre. Allez, noble et digne amie, sauvez-vous et abandonnez-moi à mon sort. »
« Il n'y a pas de trace qui n'ait une fin et de calamité qui n'apporte sa leçon. Eh bien, enveloppez-la dans cette pièce d'étoffe indienne, cachez avec soin ses formes délicates. Prenez garde, couvrez ce pied, il n'a point de pareil dans le désert, et il nous trahirait. Couvrez tout, qu'on n'y voit rien. À présent, prenez-la dans vos bras et suivez-moi, je réponds du reste. »
Duncan, comme on peut en juger par les remarques de son compagnon, obéissait avec empressement. Puis il souleva la jeune fille et l'emporta dans ses bras. Ils trouvèrent la malade seule comme ils l'avaient laissée et s'avancèrent rapidement par la galerie souterraine jusqu'à l'issue de la grotte. En approchant de la petite porte d'écorce, ils jugèrent, au bruit des voix, que les amis et parents de la malade étaient réunis au dehors, attendant que le médecin étranger eût fini ses conjurations.
« Si je prononce un seul mot, »
dit à voix basse Œil de Faucon,
« mon anglais, qui est la langue naturelle des peaux blanches, apprendra aux coquins qu'ils ont un ennemi parmi eux. Baragouinez dans votre jargon, major. Dites-leur que nous avons enfermé l'esprit malin dans la caverne et que nous emportons la femme dans les bois afin d'y chercher des herbes fortifiantes. Mettez-y toute la ruse dont vous êtes capable. La nécessité nous en fait une loi. »
La porte s'entr'ouvrit comme si quelqu'un eût essayé d'écouter ce qui se passait dans l'intérieur. Cette circonstance obligea le chasseur à mettre fin à ses instructions. Un grognement furieux fit s'éloigner l'écouteur indiscret, puis le chasseur ouvrit hardiment la porte et sortit en reprenant les allures d'un ours. Duncan, qui le suivait de près, se vit aussitôt entouré d'une vingtaine de gens qui guettaient sa venue avec impatience. La foule s'écarta un peu pour permettre au père et à un jeune guerrier, qui paraissait être le mari de la malade, de s'approcher de Duncan.
« Mon frère a-t-il chassé l'esprit malin ?»
interrogea le premier.
« Que porte-t-il entre ses bras ? Ton enfant ?»
répondit Duncan d'un ton grave.
« La maladie est sortie de son corps. Elle est là, enfermée dans les rochers. J'emporte la femme près d'ici pour la fortifier contre de nouvelles attaques. Au retour du soleil, elle sera dans le wigwam de son mari. »
Quand le père eut traduit en langue huronne les paroles de l'étranger, un léger murmure annonça la satisfaction que causait cette nouvelle. Le chef lui-même agita la main pour dire à Duncan de continuer sa marche et lui dit tout haut d'une voix ferme et d'un air majestueux
« Allez, je suis un homme. Je vais entrer dans la caverne et combattre l'esprit malin. »
Hayward obéissait avec joie et s'éloignait déjà du groupe lorsque ces paroles effrayantes l'arrêtèrent tout court.
« Mon frère est-il fou ? »
s'écria-t-il.
« Est-il cruel envers lui-même ? Il rencontrera la maladie et elle entrera dans lui, ou bien il la chassera et alors elle poursuivra sa fille dans les bois. Non, que mes enfants attendent à la porte, et si l'esprit se présente, qu'il l'assomme à coups de bâton. Il est rusé et restera caché sous la montagne quand il verra tant de personnes disposées à le combattre. »
Cette singulière admonition eut l'effet désiré. Au lieu d'entrer dans la caverne, le père et le mari s'armèrent de leurs tomahawks et se postèrent en bonne place, prêts à faire tomber leur vengeance sur le persécuteur imaginaire de la malade. Dans le même but, les femmes et les enfants ramassèrent des pierres ou coupèrent des branches dans le taillis. Les faux sorciers profitèrent de ce moment propice pour gagner au large. Œil de Faucon, tout en tirant avantage des superstitions des Indiens, n'ignorait pas qu'elles étaient plutôt tolérées que partagées par les plus sages d'entre leurs chefs. Il savait combien le temps était précieux en pareille occasion. Quelque grande que fût la crédulité de ses ennemis, et quelque favorable qu'elle eût été à ses projets, le plus léger soupçon, agissant sur la subtile intelligence d'un Indien, pourrait avoir des résultats funestes. Il prit donc la route qui pouvait le mieux les dérober au regard, et au lieu d'entrer dans le village, il en fit le tour. À la lueur mourante des feux, on apercevait encore de loin les guerriers allant d'une cabane à l'autre. Mais les enfants avaient abandonné leur jeu pour leur lit de peau, et le calme de la nuit achevait d'apaiser le trouble et l'excitation d'une soirée que tant d'événements avaient signalée. L'influence vivifiante de l'air extérieur remit complètement Alice, et comme sa faiblesse avait été plus physique que morale, elle n'eut pas besoin qu'on lui donnât d'explication sur ce qui venait de se passer. Lorsqu'on fut entré dans la forêt, « À présent, laissez-moi marcher !» dit-elle en rougissant de n'avoir pas été plus tôt à même de quitter les bras de Duncan. « Je suis tout à fait rétablie. »«
Non, Alice, » répondit Duncan, « vous êtes encore trop faible. »
La jeune fille fit un léger effort pour se dégager et Duncan fut obligé, bien à contre-cœur, de déposer son précieux fardeau. Le représentant de l'ours était sans nul doute resté complètement étranger aux émotions délicieuses que ressent un amant qui porte dans ses bras celle qu'il aime, et il est probable qu'il ne comprit pas davantage l'impression du sentiment de pudeur ingénue qui tourmentait la tremblante Alice pendant leur fuite rapide. Mais quand il estima qu'on était arrivé à une distance convenable du village, il fit halte et prit la parole sur un sujet qui lui était plus familier.
« Ce sentier, leur dit-il, vous conduira à un petit cours d'eau. Suivez-en les bords jusqu'à une cataracte. Montez alors sur la colline que vous verrez à droite et vous apercevrez les feux de l'autre peuplade. C'est là qu'il faut vous rendre et demander protection. Si ce sont de vrais Delawares, vous serez en sûreté. Fuir au loin avec cette jeune fille, c'est chose impossible. Nous n'aurions pas fait 3 ou 4 lieues que les Hurons seraient sur notre piste et prendraient nos chevelures. Allez, et que la Providence vous conduise.
Et vous ? Demanda Hayward surpris.
Vous n'allez pas nous quitter ici. Les Hurons tiennent captif l'orgueil des Delawares,
répliqua le chasseur.
Le dernier rejeton du sang glorieux des Mohicans est en leur pouvoir. Je vais voir ce qu'il est possible de faire pour lui. S'ils avaient pris votre chevelure, Major, chacun de vos cheveux aurait coûté la vie à l'un de ces coquins, comme je vous l'ai promis. Mais si le jeune Sagamore doit être lié au poteau, les Indiens verront aussi commencer mourir un homme de pur sang.
Le Major ne s'offensa pas le moins du monde de la préférence que l'honnête chasseur donnait à un jeune homme qu'il pouvait jusqu'à un certain point appeler son fils adoptif. Nonobstant, il persista à combattre sa résolution téméraire par toutes les raisons qui lui vinrent à l'esprit. Alice joignit ses prières à celles de Duncan et le supplia de renoncer à un dessein qui offrait tant de dangers et si peu d'espoir de succès. Raisonnements et prières furent inutiles. Œil de Faucon les écouta docilement, mais non sans impatience, et termina la discussion en répondant d'un ton qui réduisit aussitôt Alice au silence et démontra à Hayward l'inanité de toute remontrance ultérieure.
« J'ai ouï dire, reprit-il, qu'il y a dans la jeunesse un sentiment qui attache l'homme à la femme d'un lien plus fort que celui qui unit le père à son fils. Cela peut être. J'ai eu rarement occasion de me trouver avec des femmes de ma couleur. Mais il est possible que ce soit là le penchant de la nature dans les colonies. Vous avez risqué votre vie et tout ce qui vous est cher au monde pour délivrer cette jeune fille. Et je suppose qu'il y a au fond de tout cela quelques dispositions de ce genre. Pour moi, j'ai enseigné à Uncas la vraie manière de se servir d'un fusil et il m'en a bien récompensé. J'ai combattu à ses côtés dans plus d'une escarmouche sanglante, et aussi longtemps que d'une oreille j'entendais le bruit de son fusil, et de l'autre celui du Sagamore, j'étais sûr de n'avoir rien à craindre par derrière. Pendant bien des hivers et des étés, de nuit, de jour, nous avons erré ensemble dans le désert,
mangeant au même plat, l'un dormant et l'autre veillant. Et avant qu'il soit dit qu'Oncas, à deux pas de moi, a été conduite au supplice, il s'arrêta un instant et poursuivit son idée d'un ton plein de gravité. Quelle que soit la couleur de notre peau, nous n'avons tous qu'un maître suprême. Eh bien, je le prends à témoin, avant que le jeune Mohican meure faute d'un ami, la bonne foi aura disparu de la terre, et Perseudin sera devenu une arme aussi peu redoutable que l'instrument frivole du chanteur.
Duncan laissa aller son digne compagnon qui, retournant sur ses pas, reprit le chemin du campement des Hurons. Après l'avoir suivi un moment des yeux, Heyward et Alice, tristes et pourtant heureux d'être ensemble, se dirigèrent vers le village encore éloigné des Delawares.